19h à Bujumbura. Bienvenue dans notre journal. Aujourd'hui, dans l'actualité africaine, en RCA, plus d'une dizaine de personnes ont été tuées hier et aujourd'hui dans des violences entre les communautés à Bambari, situées dans le centre-est du pays. Jusqu'en début de soirée, la tension était encore vive au centre de la ville. À Bangui, les précisions de notre correspondant Freeman Sipila.
À l'origine de ces nouvelles violences, l'assassinat hier d'un jeune musulman par des hommes armés assimilés aux anti-balaka sur l'axe Simbolo à une vingtaine de kilomètres de Bambari. En représailles, des jeunes musulmans armés sont été pris à des civils non musulmans. Bilan provisoire, selon une source proche de la Croix-Rouge locale, plus d'une dizaine de morts, au moins 5 blessés, dont des agents du CICR agressés sur le terrain. Bilan non confirmé par Oumar Tidjani, conseiller juridique de l'association des jeunes musulmans de la Waka, avançant un chiffre de 2 morts et des blessés. Jusqu'en début de la soirée, la tension était encore vive au centre de la ville. Plusieurs barricades ont été érigées dans certaines zones à majorité non musulmane. Les manifestants réclament l'arrestation et la traduction en justice du général Aline Daras, chef de l'UPC, un groupe armé de la localité, accusé d'avoir mené les représailles aux côtés des jeunes musulmans armés. De son côté, l'UPC rejette ces accusations. Son porte-parole, le capitaine Mamad Nediad Ibrahim, parle d'interposition de leurs éléments pour éviter un drame. Des casques bleus de la MINUSCA sont déployés dans la ville pour tenter de ramener le calme. À Bangui, aucune réaction officielle n'est encore enregistrée de la part des autorités gouvernementales. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Et puis Centrafrique toujours, les États-Unis ont annoncé vendredi des sanctions contre 2 marchands de diamants et 3 responsables de milices en Centrafrique qu'ils accusent de menacer la paix et la stabilité dans le pays. Ces sanctions prises dans la foulée de celles de l'ONU gèlent les avoirs financiers de la société Badika, une des plus importantes compagnies diamantaires en RCA, et de sa filiale belge Cardiam, basée à Anvers. Ces sanctions interdisent également à toute société ou ressortissant américain de commercer avec eux. Direction la RDC, l'ex-chef militaire congolais Thomas Lubanga, condamné à 14 ans de prison pour crime de guerre dans l'est du pays, a demandé sa libération anticipée à la Cour pénale internationale. Il nie avoir exercé des pressions sur des témoins dans un autre procès. Monsieur Lubanga avait été transféré au centre de détention de la CPI en mars 2006 et avait été condamné en 2012 pour l'enrôlement d'enfants soldats en Ituri, la province orientale de la RDC, qui est riche en ressources comme l'or, lors des violences en 2002-2003. À Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, le ministère public a requis 3 ans de prison contre 4 activistes du mouvement Lucha, la lutte pour le changement, et ils sont accusés d'incitation à la désobéissance, Nicolas Pinault.
Les 4 militants avaient été arrêtés en avril dernier dans la capitale du Nord Kivu. Ils réclamaient par le biais de tracts la libération de leurs camarades arrêtés mi-mars à Kinshasa, ainsi que le respect des libertés publiques. Maître Eric Sadiki, l'avocat des accusés, a déclaré à l'agence France-Presse que le parquet a été incapable de prouver quelle infraction ils ont commise, mais l'officier du ministère public a quand même requis 3 ans de prison. Le juge a mis le dossier en délibéré pour rendre un jugement au plus tard, le 11 septembre. Les avocats des 4 jeunes qui bénéficient d'une liberté provisoire ont plaidé l'acquittement dans ce procès qui s'est ouvert le 20 mai dernier au tribunal de grande instance de Goma. Le climat politique est tendu en République démocratique du Congo à l'approche des élections devant s'achever par la présidentielle. En novembre 2016, la constitution congolaise interdit au président Joseph Kabila, au pouvoir depuis 2001, de se représenter. Mais ce dernier n'a toujours pas dévoilé ses intentions.
En Guinée, l'opposition a forgé un compromis avec le président Alpha Condé concernant la nomination par le président des nouveaux maires et des postes de fonctionnaires locaux. Ce pacte intervient dans le cadre de la campagne électorale pour l'élection présidentielle, toujours prévue le 11 octobre prochain. L'opposition estime que les municipalités restent des bastions du pouvoir, ce qui donne au président Condé un net avantage. Elle revendique la recomposition des communes dans les 332 circonscriptions. Au Burkina Faso, les candidats à la présidentielle du 11 octobre ont signé aujourd'hui à Ouagadougou un code de bonne conduite qui devrait conduire à un scrutin apaisé. Un scrutin censé tourner définitivement la page des 27 ans du règne du président déchu Blaise Compaoré. Ce pacte de bonne conduite a été élaboré par le Conseil supérieur de la communication et il a été signé par les médias et la société civile en présence du président burkinabé Michel Kafongo. Les Bissau-Guinéens, dans l'attente aujourd'hui de la formation d'un gouvernement après la désignation d'un nouveau Premier ministre en la personne de Bassirou Diarra. Le 12 août dernier, le président José Mário Vaz s'était séparé du Premier ministre Domingo Simoes Pereira, en poste depuis 14 mois, évoquant une crise de confiance au sommet de l'État. Mais le premier ministre déchu préside le parti et a le soutien de l'appareil face au chef de l'État. Et puis ce cri d'alarme de Médecins sans frontières face au mouvement de déplacés fuyant les attaques du groupe Boko Haram. MSF s'alarme de l'afflux de population dans la région de Diffa au Niger, mais également au Cameroun et au Tchad. La situation sécuritaire le long des frontières entre le Nigeria et les pays voisins reste très instable. Au Burundi, c'est demain, samedi, qu'Adolphe Nshirimiimana, l'ancien chef des services secrets, sera enterré à Kamangé, dans un endroit appelé Iwabo Ibantu. Celui qui fut le bras droit du président Pierre Nkurunziza sera inhumé après une messe à 8h à la cathédrale Regina Mundi.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Et l'actualité dans le reste du monde, Kim Jong-un place la Corée du Nord sur le pied de guerre. Le dirigeant a placé ses troupes en état d'alerte maximum. Cette décision survient à un moment où les tensions ont redoublé sur la péninsule après un rare échange de tirs d'artillerie entre Pyongyang et Séoul. Tatiana Mossio.
L'ultimatum expire samedi matin, mais Séoul refuse d'obtempérer, affirmant que ses haut-parleurs continueraient de diffuser à plein volume des messages de propagande à la frontière. Ses troupes doivent être pleinement prêtes au combat et à lancer des opérations surprises, tandis que la ligne de front tout entière doit se trouver dans un semi-état de guerre, a décrété Kim Jong-un. Les chefs d'état-major sud-coréens ont répliqué en appelant à s'abstenir de tout acte irréfléchi et prévenu qu'ils ne resteraient pas les bras croisés en cas de nouvelles provocations. Kim Jong-un est un adepte d'annonces belliqueuses. En 2013, il déclarait déjà l'état de guerre avec le Sud. Techniquement, les deux pays sont en conflit depuis 65 ans, mais le cessez-le-feu n'a jamais été formalisé par un traité de paix. Jeudi, Séoul a accusé Pyongyang d'avoir tiré plusieurs obus en direction de l'un de ses haut-parleurs frontaliers. Séoul a répliqué en tirant des dizaines d'obus d'artillerie. Les échanges de tirs frontaliers directs sont extrêmement rares. La situation était déjà tendue avant les heures de jeudi, après l'attaque à la mine antipersonnelle imputée à Pyongyang par Séoul, dans laquelle deux soldats sud-coréens ont été mutilés en début de mois. C'est cette affaire, justement, dans laquelle Pyongyang dément avoir joué le moindre rôle, qui avait poussé Séoul à reprendre sa guerre de propagande à la frontière après 11 années de silence.
Législative en Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan appelle à la tenue d'un nouveau scrutin le 1er novembre, mesure prise en raison de l'échec des négociations pour former un gouvernement de coalition à l'issue du vote de juin. Michel Joseph nous en dit plus.
Le président peut-il appeler à des élections anticipées selon la Constitution ? Pour Recep Tayyip Erdogan, la réponse est affirmative. Une disposition prévoyait pourtant qu'il revenait au Parlement d'appeler à un nouveau scrutin. Le chef de l'État a donc dû passer outre ce texte pour ordonner des législatives en novembre. Recep Tayyip Erdogan prévoit toutefois de rencontrer le président du Parlement lundi pour prendre des dispositions nécessaires. En attendant le verdict des urnes, le pays devra se doter d'un gouvernement de transition composé des représentants de chacun des partis qui siègent au Parlement. Mais depuis les élections du 7 juin, le parti islamo-conservateur de l'AKP, qui règne sans partage depuis 2002, a cherché en vain un partenaire pour gouverner suite à la perte de sa majorité.
Et pour finir cette édition, la Commission européenne n'est pas surprise par la décision du Premier ministre grec Alexis Tsipras de convoquer des législatives anticipées et n'est pas inquiète pour la mise en œuvre des réformes imposées à Athènes par ses créanciers. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui une porte-parole. Monsieur Tsipras a annoncé jeudi soir sa démission après avoir perdu sa majorité parlementaire la semaine dernière. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information revient dans 20 minutes avec Le Monde Aujourd'hui, notre édition du soir, présentée par Morgane Guiriec et Eric Manirakiza. Retrouvez-nous 24h sur 24 sur voaafrique.com et sur notre page Facebook. Très bon début de soirée à l'écoute de nos programmes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.